Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ils sont plus de 2 300 000 finalistes du primaire à prendre part à l'ENAFEP, leur examen de fin de cycle à travers le pays. Au lancement officiel ce matin à Kinshasa, la ministre Raissa Malou les a appelés à faire confiance aux connaissances acquises pour réussir. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme condamne fermement l'attaque d'un campement des peuples autochtones Bouti dimanche en Gadi à Beni par des ADF. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres sont portées disparues. Comme invité, Thérèse Hart, représentante nationale de la Fondation Lukuru et directrice du projet pour la protection des perroquets au Congo-Kinshasa. Cette fondation a joué un rôle important dans l'opération qui a permis de libérer près de 500 perroquets gris et verts saisis des mains de trafiquants. Madame, Monsieur, bonjour. Les finalistes du primaire ont débuté ce matin leur examen de fin de cycle ENAFEP. C'est pour 2 jours. Le lancement officiel a eu lieu à l'école Mokengele dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui a donné le coup d'envoi de cette 11e édition, l'éducation n'est pas un privilège, mais un droit et une responsabilité collective. Devant inspecteurs, surveillants et parents, la ministre a encouragé les candidats à faire confiance aux connaissances acquises pour réussir cette épreuve. Raissa Malou nous donne aussi les chiffres de cette édition. C'est dans cet extrait que nous propose John Chibobwa.
Pour cette édition 2026, l'ENAFEP enregistre 2 353 123 candidats, dont près de 48% de filles. Ces chiffres disent l'ampleur de la tâche. Ils disent aussi l'espérance portée par des millions de familles, d'écoles et de communautés. Chers élèves, la nation vous regarde aujourd'hui avec confiance. Votre présence dans ces centres d'examen témoigne de votre discipline, de votre courage et du travail accompli tout au long de l'année. Abordez ces épreuves avec calme, concentration et honnêteté. Faites confiance à ce que vous avez appris. La réussite véritable se construit dans l'effort, le sérieux et le mérite. Je m'adresse particulièrement aux filles. Votre place est à l'école. Votre réussite à l'ENAFEP doit vous permettre de poursuivre votre parcours scolaire. La République a besoin de filles instruites, confiantes, compétentes et capables de prendre toute leur part dans l'avenir national. Ma pensée se tourne également vers les enfants qui passent leurs examens dans des conditions difficiles. Ceux qui sont affectés par les conflits, les déplacements forcés, la maladie. Aucun enfant ne doit être abandonné aux circonstances. Partout où se trouve un enfant congolais, son droit à l'éducation doit être protégé.
La ministre de l'Éducation nationale. Et alors que l'épidémie d'Ebola reste au cœur de l'actualité, des points d'eau ont été installés devant chaque salle de Mokengele pour permettre aux élèves de se laver les mains. Par ailleurs, un appel au respect des mesures barrières avait aussi été lancé le week-end par l'inspecteur général de l'Éducation, particulièrement pour les 3 provinces touchées par l'épidémie d'Ebola, à savoir les 2 Kivu et l'Ituri. Au Nord Kivu, l'effondrement le matin d'hier, mercredi, du pont Bimahamba dans le territoire de Walikale a failli empêcher plusieurs finalistes primaires de passer l'ENAFEP aujourd'hui. Ce pont relie en effet Ombo Est dans les secteurs de Mokano à Ombo Nord dans les secteurs de Wanyanga. Des sources locales lisent cet incident à la vétusté de cet ouvrage d'environ 100 mètres construit avec des matériaux rudimentaires au-dessus de la rivière Luoro. L'ENAFEP a pu être sauvé grâce à la mobilisation des membres de la communauté locale. Ils ont pu installer un pont de secours en liane afin de permettre aux élèves de 10 écoles affectées situées de part et d'autre de la rivière Luoro d'accéder à leur centre d'examen. Toutefois, c'est une solution provisoire, pas très fiable tout de même, et trouvée pour l'instant. L'association locale Groupe d'Action pour la protection de l'enfance GAP souhaite qu'une solution durable soit rapidement mise en place pour faciliter l'accès des élèves au centre d'examen pour les autres épreuves certificatives prévues ce mois de juin. Son coordonnateur Bamso Bayumba Mishiki s'est confié à Bernard Denyangi.
C'était à 8h35. Le pauvre Hombo qui venait de s'écrouler, 3 enfants qui venaient de les aider. Maintenant, ils sont hospitalisés au centre de santé de référence de Hombo Nord et au centre de santé de Hombo Sud. Vraiment, nous sollicitons des personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que ce pont puisse être construit très vite, puisque les élèves de 6e année, 8e année, et les élèves de 4e année, tous vont faire des examens. Donc, examen d'état, ils vont passer ici dans ces pots. Vraiment, nous sollicitons des personnes de bonne volonté de nous venir en aide, puisqu'il n'y a pas un autre chemin qui va passer ces élèves pour aller faire les examens d'état ici dans le centre des examens d'État.
À propos de l'ENAFEP, notez que cette année, la province éducationnelle Kasaï Central 1 enregistre une légère baisse du taux de participation à cet examen national. La situation est particulièrement préoccupante pour les filles dont la participation recule davantage. Face à cette tendance, les organisations de défense des droits des femmes appellent à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs afin d'encourager davantage de filles à prendre part à cet examen lors des prochaines éditions. Le point avec André Katendengalamloumé.
Au total, 69 066 candidats, dont 30 568 filles, prennent part à cette épreuve certificative dans la province éducationnelle Kasaï Central 1. Ils sont répartis dans 235 centres. Toutefois, une légère baisse du taux de participation est observée par rapport à l'année dernière où la province avait enregistré 69 479 candidats, dont 32 850 filles. Ces statistiques révèlent une diminution de la participation des filles de 7%. C'est ce qu'indique Paulin Bouilly, inspecteur principal provincial intérimaire.
La province éducationnelle Kasaï Central 1 enregistre une diminution de 413 candidats. Le nombre de filles a également diminué de 2282.
Une situation qui inquiète les structures de défense des droits des femmes. Pauline Ngalula, coordonnatrice de l'ONG Agissons pour la femme, appelle à unir les forces pour améliorer la participation des filles lors des prochaines éditions. Cette année, le lancement officiel de l'ENAFEP a eu lieu à Lépéga Kaja. Le ministre provincial de l'éducation, Honoré Moutchipaï Balo, a invité toutes les parties prenantes au respect des normes pour une meilleure passation. Kananga, André Katendengalamulumé, Radio Okapi.
Le chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé ce jeudi à Bunia. C'est pour évaluer l'évolution de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri. Après un entretien avec le gouverneur de province, le général Johnny Lubuya, il doit visiter cet après-midi le futur centre de traitement et d'isolement des malades d'Ebola construit par la MONUSCO à Ndoromo, en périphérie de la ville. Cette visite intervient au lendemain de la remise par la MONUSCO à l'Organisation mondiale de la santé de deux véhicules blindés, deux ambulances médicalisées et un véhicule utilitaire destiné à renforcer la lutte contre l'épidémie. Cet appui logistique complète un premier lot d'équipements remis le 22 mai dernier. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, en République démocratique du Congo, condamne fermement une attaque meurtrière survenue la nuit de samedi à dimanche dernier dans un campement de peuples autochtones en Mbouti. Angadi, dans la commune de Rwenzori à Beni au Nord Kivu. Le BCNUDH l'a fait savoir dans un communiqué publié mercredi. Que retenir de ce document, Élisée Chikota?
Ces communiqués indiquent que, selon plusieurs sources concordantes, cette attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADEF a fait au moins 7 morts, dont 6 membres de la communauté Mbouti, parmi lesquels une femme. Le comédien et artiste Choukrani Zanzou figure également parmi les victimes tuées aux côtés des membres de sa famille. Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues. Cette attaque intervient dans un contexte persistant d'insécurité à Beni, marqué par des violences répétées et des exactions ciblées contre les civils. Les populations autochtones, déjà vulnérables, font face à des déplacements forcés, à la perte de leurs terres et à un accès limité à l'aide humanitaire. Depuis le début de l'année, plus de 300 civils ont été tués par les ADEF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale afin d'identifier les responsables et de les traduire en justice. Il appelle également au renforcement de la protection des populations ainsi qu'à une assistance humanitaire urgente pour les survivants.
Et pour ce constat, déplacement forcé, traumatisme, déscolarisation ou encore recrutement par des groupes armés, en Ituri, les conflits continuent de laisser des profondes séquelles chez les enfants. À l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agressions célébrée aujourd'hui 4 juin, des acteurs de la société civile appellent à renforcer leur protection et leur accompagnement psychologique. Jean-Claude Lokidile.
Les parents, ils cherchent le travail déjà. Les collations aussi, c'est cher, mais les gens ne trouvent pas aussi l'argent des collations.
Anouarit vit sur le site des déplacés de Kigonze depuis l'âge de 8 ans. Comme de nombreux enfants déplacés, elle grandit dans un environnement marqué par la précarité et l'incertitude. Pour Marthe Dévé, vice-présidente du collectif des femmes leaders de l'Ituri, les violences vécues par ces enfants nécessitent un accompagnement psychologique adapté.
Parce que quand ils ont été agressés là, ils sont rester avec tout ce qui était passé là. Ils sont parfois traumatisés. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'ils subissent que nous, on ne comprend pas. Mais alors, un accompagnement psychologique pourrait peut-être les aider.
De son côté, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, Gloire Abassi, dénonce le recrutement des mineurs par les groupes armés et appelle au respect de la loi portant protection de l'enfant.
L'AFA, à sa place, n'est pas dans les groupes armés. Que ceux qui sont dans les groupes armés, ils doivent logiquement savoir que tous ceux qui sont en train de les faire, demain, ils vont répondre. Mais aussi, il est de même de demander au gouvernement qui a la responsabilité première de protéger, sécuriser sa population, de faire respecter la loi portant protection de la face promulguée en 2009.
Une journée qui rappelle l'urgence de mieux protéger les enfants affectés par les conflits en Ituri. Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Capi.
Et dans l'actualité aussi, cette préoccupation, 5 ans après son instauration dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, quel bilan peut-on tirer de l'état de siège? Si cette mesure exceptionnelle visait à restaurer la sécurité et à neutraliser les groupes armés, les violences persistent dans plusieurs zones et la situation humanitaire demeure préoccupante. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale a entamé mardi une évaluation de l'état de siège en présence de plusieurs membres du gouvernement. 4 ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, justice et des affaires sociales ont été entendus par les députés. Au cœur des préoccupations, les avancées enregistrées sur le plan sécuritaire, mais aussi les effets de cette mesure sur les conditions de vie des populations. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, revient sur les principaux points examinés. Il est au micro de Grace Amzati.
La gouvernance globale provinciale en matière de sécurité, les mesures opérationnelles et la poursuite de l'agresseur et ses alliés, des retombées en termes des libertés publiques de l'organisation de la justice, et tout comme les effets collatéraux consécutifs, n'est-ce pas, à cette guerre sur le plan social et humanitaire et de la solidarité nationale. Pour la séance de ce mardi, nous avons eu à écouter les ministres qui ont fait le point. Compte tenu de l'importance de la question, les débats, notamment les préoccupations de députés, mais surtout l'approfondissement des questions par les membres du gouvernement, interviendra ou interviendront lors d'une prochaine séance qui pourra avoir lieu le vendredi prochain.
Direction le Haut-Katanga avec ses chiffres préoccupants. 107 personnes ont été tuées sur plusieurs axes routiers de la province à la suite des accidents de circulation rien qu'au premier trimestre de cette année. La Commission nationale de prévention routière CNPR Haut-Katanga a publié ses statistiques des accidents routiers hier mercredi. Elle dit avoir enregistré plus de 800 cas d'accidents dont la première cause est l'excès de vitesse. La CNPR souligne que des efforts sont fournis pour diminuer les cas d'accidents dans la province. Pour la Munanga, nous en dit plus.
Les victimes de ces accidents sont évaluées à plus de 500 personnes et le nombre de dégâts matériels importants enregistrés est de plus de 1000, indique la CNPR. Les causes de ces accidents sont multiples. C'est notamment l'excès de vitesse, l'imprudence au volant, la fausse manœuvre, l'ivresse au volant et les sens interdits. Selon la CNPR, les itinéraires dangereux à Lubumbashi et dans d'autres villes sont notamment la route poids lourd, la route Kipushi, Kasenga, Kasumbalesa, Lika, la route Kamatanda Kolwezi, le boulevard Msiri et l'avenue Lumumba. Le chargé de la division technique à la CNPR Haut-Katanga explique que certaines actions sont menées sur le terrain pour lutter contre les accidents des routes. Christophe Lia.
Pour résoudre les problèmes des excès de vitesse, nous devons faire aussi les contrôles de vitesse. Quand nous le faisons, les usagers ont tendance à beaucoup crier que c'est de la tracasserie. Des deux, nous procédons maintenant par l'implantation de la signalisation, donc le panneau routier et le marquage au sol. Nous avons déjà commencé. En plus de ça, nous déployons maintenant nos équipes sur le terrain pour aussi réguler la circulation et sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Avant l'actualité internationale, nous allons au Congo central où le marché Gondola, spécialisé dans la vente d'œuvres d'art à Matadi, est en difficulté. Les marchands peinent à vendre leurs œuvres parce que la population ne s'y intéresse pas. D'où la sonnette d'alarme tirée par les artisans de ce marché appelé communément Wendiabikeko, traduisez marché des statuettes. Les artisans attribuent ce désintérêt à certaines croyances religieuses qui associeraient les sculptures en bois, notamment celles à connotation africaine ou fétiche. Elise Kavira, notre correspondante, s'est rendue sur place pour rencontrer ses créateurs et nous faire découvrir leurs réalisations. Suivez.
La particularité de cet espace d'expression artistique réside dans le fait qu'il regroupe des artisans qui y exposent des sculptures, des objets décoratifs, des peintures et autres créations à forte inspiration culturelle africaine. Evelyne Timba, mère de famille choisie par hasard alors qu'elle faisait ses courses non loin du marché, nous explique les raisons de sa méfiance.
Sans mentir, je n'ai jamais acheté une œuvre d'art pour mettre dans ma maison. Des fois, ils font des masques qui font peur. Aujourd'hui, nous avons compris certaines choses dans la spiritualité, donc je préfère éviter d'en acheter.
Attristé par ces allégations, Mavin Gambadou, vendeur des sculptures en bois dans ce marché depuis 1978, exprime ses regrets.
Vous savez, nos compatriotes de Matadi ne sont pas des amateurs d'œuvres d'art. Ce sont les Occidentaux qui achètent souvent ces œuvres d'art que nous faisons. Tout le monde peut s'en procurer. Ce sont plus les églises qui intoxiquent la population, leur faisant croire qu'il y a de la sorcellerie dans ces figurines. Qu'ils viennent acheter, ce n'est pas du tout cher.
Selon Mavin Gambadou, si rien n'est fait, ce marché ne tardera pas à disparaître. Cette situation est d'autant plus préoccupante car, au-delà d'être une passion, cette activité est la principale source des revenus pour plusieurs d'entre eux. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les militaires au pouvoir au Mali ont interdit par un décret gouvernemental l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes. Ce décret intervient alors que le Mali lutte contre une insurrection djihadiste qui plonge la nation du Sahel dans une crise sécuritaire, les motos étant le moyen de transport privilégié des groupes djihadistes au pays. Le texte stipule que la circulation des motos d'une cylindrée de 125 cm3 et plus en dehors des grands centres urbains est suspendue sur l'ensemble du territoire national.
L'invité.
Il s'agit de Thérèse Hart, représentante nationale de la Fondation Lukuru et directrice du projet pour la protection des perroquets au Congo-Kinshasa, P3CK. Nous l'avons annoncé sur nos antennes dimanche, près de 500 perroquets gris et verts saisis des mains des trafiquants ont été relâchés au Maniema après une réhabilitation complète. Au cœur de cette action, cette fondation, en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, le ministère de l'Environnement et les services de sécurité. Alors comment se fait la prise en charge de ces perroquets et comment cette opération a-t-elle été menée, avec quels moyens? Thérèse Hart en parle dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Thérèse Hart, bonjour.
Bonjour.
Fondation Lukuru, depuis 2022, vous vous occupez beaucoup plus de la protection de perroquets dans la province du Maniema. Comment vous le faites?
Bon, oui, nous sommes dans les perroquets depuis 2022. C'était fait parce que nous avons eu les perroquets devant nous et il fallait en faire quelque chose.
Quand il y a les perroquets qui sont saisis des part et d'autre dans la province du Maniema, on amène à la Fondation Lukuru. Quels sont les
aidants? Au début, on les amène à la coordination provinciale de l'environnement et de là, ils vont à l'ICCN. Et c'est seulement de l'ICCN qu'ils amènent chez nous. Et donc, nous avons commencé ce projet quand moi, j'étais chef de site à l'ICCN pour le parc national de la Laomami. Et c'était dans cette situation quand nous étions face à des perroquets saisis qui ne savaient pas voler et on ne savait pas quoi en faire.
Alors, quelles sont les étapes de récupération de ces oiseaux totalement protégés?
Ce que nous voyons maintenant, que ce n'est pas la même chose pour chaque perroquet. Ça dépend de l'état de perroquet et ça dépend de la manière dont il a été endommagé. Certaines, ils coupent tous les plumes de deux ailes et ils enlèvent aussi la queue. Avec ça, ça prend plus qu'une année pour que tout soit repoussé.
On peut dire que les trafics illicites des perroquets au Maniema, ça se multiplie parce que autrefois nous vous avons vu avec une seule volière, mais à ce jour vous avez 7 volières.
Oui, ça c'est aussi la capacité des agents de la sécurité de les saisir et les confisquer. Au début, ils n'étaient pas très bien. Et vu que les perroquets prennent beaucoup de temps, et ce n'est pas un remplacement très vite. Il faut une équipe est saisie, une autre équipe est saisie, une autre équipe est saisie et les premières sont toujours là. Donc, il fallait progressivement continuer à construire des volières.
Maintenant, comment est-ce que vous faites pour un bon suivi? Ils sont nombreux. Pour savoir que tel on l'a suivi et tel, est-ce que vous mettez des signes?
Oui, on a mis une bague sur un pied de chaque perroquet. Et en faisant ça, on perd pèse le perroquet, on détermine l'âge à partir de couleur des yeux et on regarde les plumes qui manquent. Et puis on le fait encore après 3 mois encore. Donc on suit chaque perroquet. On dit qu'on fait un longitudinal. Donc on voit le progrès de chaque perroquet. Et maintenant dans les volières, on a des volières. On peut les arranger. Ceux qui sont prêts à partir sont mis dans une volière. D'autres qui sont très maigres et qui ne sont pas en train de réhabiliter vite, on les met ensemble pour que eux, ils ont la possibilité de bien se nourrir parce qu'ils sont plus faibles et les autres plus forts. Et donc, c'est ainsi qu'on suit chaque individu uniquement.
Qu'en est-il de ces perroquets d'Imanema qui ont été saisis depuis la Turquie et qui étaient ramenés ici?
Bon, les dernières 4 viennent de voler dimanche passé.
C'est-à-dire, tous, ils ont...
C'était plus que 120 et ils sont tous partis maintenant.
Alors tout ceci, vous le faites avec quels moyens?
Au début, on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était un peu personnel. Mais il y a un bailleur, une personne assez riche aux États-Unis, qui aime les perroquets et qui est en train de nous aider. Et il le fait parce que nous ne connaissons même pas son nom.
C'est qu'il est anonyme?
Il est anonyme, oui. Il le fait à travers une autre organisation.
Les perroquets représentent quand même une richesse pour la province d'Imanema. Et si on vous demandait de dire un mot à tous ces trafiquants, quel serait votre message?
Oui, je dirais qu'ils sont en train de voler de la population de Maniema une ressource qui pourrait être très importante pour le tourisme et qui a une valeur aussi traditionnelle. Ce qui me fait mal, ils sont en train de voler pour peu de profit aujourd'hui, quelque chose qui, une fois que c'est vendu international, en Asie, en Moyen-Orient, ça peut donner quelques $1,000 qu'ici, ils donnent moins pour avoir un perroquet. Donc, le profit ici est peu et la perte est grande.
Thérèse Hart, merci.
Merci à vous aussi.
Thérèse Hart, représentante nationale de la Fondation Lokoro et directrice du projet pour la protection des perroquets au Congo-Kinshasa, P3ACK. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et Lise Chikota Chivuita avec Jean-Claude Siala à la mise en onde. Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.